Marigny. Ah, le jingle des Marigny deuxième fois. Good evening, bonsoir, Kiara. Vous êtes sur Amuse Gueule, la radio des francophones et des francophiles d'Auckland. Et ce soir, dans le studio, il n'y a pas grand monde. On est de nouveau deux, comme la semaine passée. Donc bonsoir Sarah, pour ceux qui ont suivi.
Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde.
Voilà, Sarah et Stéphane. Et donc aujourd'hui, c'est une émission placée sous le signe des vacances de Pâques. C'est pas encore tout à fait le vendredi de Pâques et tout ça, mais on n'en est pas loin. Et donc, avant de parler de quoi que ce soit, on va placer une petite musique. C'est Sarah qui est responsable de la musique ce soir. Et c'est pas des musiques du Pacifique comme la semaine passée, elle nous a fait un autre choix. Qu'est-ce que tu vas nous mettre là?
Eh bien, écoute, si on commençait par Émilie Loiseau, L'autre bout du monde.
Voilà, voilà, c'est parti.
On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça. De l'autre bout du monde, j'avance seule dans le brouillard. C'est décidé, ça y est, je pars, je m'en vais à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. Sur les berges d'une rivière, une voix m'appelle, puis se perd, c'est ta voix à l'autre bout du monde. Ta voix qui me dit mon trésor, tout ce temps je n'étais pas mort, je vivais à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. Da 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 da. Il pleut de l'or. Entre mes bras, je serre ton corps. Tu es là, à l'autre bout du monde. Je te rejoins quand je m'endors. Mais je veux te revoir encore. Où est-il? L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde.
Émilie Loiseau, L'autre bout du monde.
Émilie Loiseau, c'est qui ça? J'ai jamais entendu.
Eh ben, je ne sais pas trop, en fait.
Ah, t'es tombée dessus par hasard?
Non, je suis pas tombée dessus par hasard. C'est avec le groupe de théâtre d'Auckland. C'était un morceau qu'on avait utilisé pendant notre spectacle. Et en fait, je connaissais pas du tout. Et je suis complètement tombée sous le charme du morceau. Donc voilà.
Maintenant. C'est juste ce morceau-là ou t'as d'autres morceaux de du même chanteur qui...
Non, c'est juste ce morceau-là,
okay.
Ouais, que voilà. Je ne connaissais pas du tout.
D'accord, formidable. On a découvert quelque chose.
Ben oui.
Alors, donc, comme on disait avant le début de l'émission, là, donc on est tout près du week-end de Pâques, et c'est un week-end de Pâques qui va être un peu triste, hein, avec l'incendie qu'il y a eu il y a quelques jours à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
C'est terrible. C'est terrible.
Moi, quand je suis tombé de ça dans le journal, je me souviens, j'ai ouvert les news le matin et j'étais là, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ah ouais, non, mais pareil, ouais, quand je m'en suis rendu compte, en fait, j'ai vu un ami qui a posté sur Facebook que la cathédrale Notre-Dame de Paris était en flammes. Et je me suis dit, ouais, c'est pas vrai. C'est un fake.
C'est un fake news.
Et après, en fait, ouais, ben, je me suis rendu compte que ben, ouais, dans mes rêves.
J'ai ouvert le journal, je suis tombé dessus. Je suis tout de suite tombé sur une vidéo où on voyait la spire qui s'effondrait. Donc, c'était vraiment. Ça m'a ramené un peu aux images du 11 septembre où on voyait les buildings qui s'effondraient.
Oui, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Hein. Ouais.
D'ailleurs,
ouais.
Il paraît qu'il y a. Il y a des gens qui ont posté ces vidéos sur YouTube, je crois, ou je sais pas quoi. Et en fait, les algorithmes de YouTube ont bloqué certaines vidéos parce qu'ils pensaient que c'était lié au 11 septembre, des choses terroristes.
Des attentats, oui. Ouais.
Alors que bon, c'est un incendie apparemment, pour ce que j'en sais, c'est juste accidentel. Mais...
Apparemment, oui. Ouais. Bah, je suppose que l'enquête nous le dira hein, au bout d'un moment.
Ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est... Enfin, je comprends que ce genre d'édifice... bon, évidemment, il y a plein de bois, donc c'est sujet à des incendies. Et d'ailleurs, au cours de l'histoire... Avant, j'ai lu un roman de Ken Follett, là, récemment, qui se passe au 11e siècle, où ils construisent une cathédrale, justement. Mm-hmm. Et ils font le commentaire qu'au 11e ou 12e siècle, ils ont commencé à faire des voûtes en pierre, avec la toiture en bois qui est donc au-dessus. Et ça a été un gros changement, parce qu'avant ça, la toiture en bois était directement au-dessus de la voûte, où il y avait un plafond en bois entre la toiture et l'église. Et donc, quand il y avait un incendie dans la toiture, bah, ça foutait tout en l'air. Tandis qu'une fois qu'il y a eu une voûte en pierre, si la toiture brûlait, on pouvait encore limiter les dégâts, puisqu'il n'y avait que la partie en bois qui brûlait. Et donc, bon, Notre-Dame a clairement une voûte en pierre, mais je me dis quand même, depuis le temps qu'elle est là, ou depuis, on est quand même à l'époque moderne, ça m'étonne qu'ils n'aient pas mis un système de sprinkler dans la toiture, parce que c'était un peu un désastre qui attendait de se produire.
Oui, mais en fait, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait plusieurs édifices historiques à Paris qui avaient... entrepris des travaux de rénovation récemment justement pour limiter le risque d'incendie. Okay. Donc je me demande, tu sais, les travaux de rénovation qui étaient en cours à Notre-Dame, je me demande si c'était pas aussi...
Ouais, peut-être, mais enfin, on se dit que mettre un système... bon, c'est pas l'idéal de balancer de l'eau au milieu d'une cathédrale, mais si ça peut limiter l'incendie dans les premières minutes...
Ouais, je suppose
moins,
que
c'est... moins pire
ouais.
Que laisser tout brûler. Quoi. Enfin, je suis étonné qu'il n'y ait pas un minimum de système anti-incendie là-dedans. Apparemment, il n'y avait rien du tout.
Quoi. En tout cas, bon, il y a la plupart des œuvres d'art, je crois, ont été sauvées.
Oui, on a l'impression que l'intérieur n'était pas trop abîmé.
Non, oui. Ouais.
À part la partie qui s'est effondrée, là, avec la spire. Là,
mais... Ouais. Mais ça fait mal, hein, période.
Ah ouais, non, c'est
ouais,
sûr. Hein,
et même si, bon, moi, personnellement, je suis catholique, mais même si je suis pas particulièrement religieuse, mais c'est terrible de voir un édifice religieux brûlé, qu'il soit de ta religion ou d'une autre religion. Mm-hmm. C'est.
Oh. Ouais, moi, ce qui m'en, enfin, moi, je suis moins catholique, mais ce qui m'embête plus, c'est me dire que c'était un bâtiment de 850 ans, et quand on visite ce bâtiment, il y a quand même un petit quelque chose à se dire qu'on est dans un bâtiment
c'est
qui a 800 ans.
C'est un bâtiment culturel.
Et bon, tu vois, même s'il le rénove, même si, bon, on peut visiter, je crois qu'on pouvait visiter les toitures et tout ça,
oui.
On pourra plus dire, oh, cette toiture a été bâtie il y a 8 siècles.
Ben oui.
Bon, même si, bon, l'essentiel, l'intérieur, etc., apparemment est préservé. Quoi.
Mais apparemment, elle avait déjà brûlé.
Il y a eu un incendie, apparemment, en fin de la Deuxième Guerre mondiale ou...
Oui.
Il y avait déjà eu un incendie, mais pas aussi important.
Parce qu'elle avait été rénovée par Viollet-le-Duc.
Ah, là, tu m'en apprends, là.
J'ai pas
relu ma copie avant l'émission.
Par contre, je sèche sur quel siècle c'était. Je sais plus.
Il y a eu plusieurs rénovations, parce que même les différentes parties de la toiture datent pas de la même époque.
Non, oui. Et je me demande si les rénovations par Viollet-le-Duc, c'était pas après un incendie aussi, okay. Je sais plus.
Bah oui, enfin, les cathédrales qui ont brûlé...
Je me souviens encore la première fois que je suis allée à Paris, j'avais 15 ans,
mm-hmm.
et j'étais donc avec mes parents, et mon père nous a emmenés sur une balade sur la Seine, dans un bateau-mouche.
Ouais, ouais.
Et j'étais vraiment émerveillée, je regardais partout, c'était magnifique, tous les grands bâtiments, je voyais la tour Eiffel et tout. Et on est arrivé à un tournant dans la Seine, et mon père m'a tapé sur l'épaule, et il m'a dit « Regarde, c'est la Grande Dame ».
Mm-hmm.
Et c'était la cathédrale. Et j'étais là, oh my god! Bon, à l'époque, je parlais pas anglais, mais. Ouais. Non,
ouais,
c'était.
Non, fait...
Ouais, et c'est pour ça que ça m'a fait vraiment du mal ce matin, enfin, quand j'ai vu
l'incendie. Hein.
Ouais, l'incendie, et je me suis souvenue de ça. Et ouais, c'est. Bouf! Bizarre.
Ouais, ouais, c'est moche, ouais. Hein. Mais bon, ça va prendre un certain temps à la réparer, j'imagine.
Ouais, je pense, ouais. Bon, ben, j'espère que ça va pas prendre 2 siècles.
Ouais, ça va pas prendre 2 ans, en tout cas. Hein. Je pense que ça va être 10 ans, 20 ans.
Ouais.
Pas à moins que... Enfin, non, je pense pas que ça va aller plus vite que ça.
Mais bon, c'est vrai que ceux qui ont construit cette cathédrale, à l'origine, c'était le travail de toute une vie, quoi.
Ouais, ça prenait...
Ça prenait 200 ans, quoi, pour construire une cathédrale.
Mais c'est comme y a la cathédrale qui est toujours en construction à Barcelone.
Oui.
Et ce qui m'impressionne avec ce projet à Barcelone, c'est qu'encore aujourd'hui, on puisse mettre en place un projet de construction qui s'étale sur plus de 100 ans. Et qui continue, qui perdure, qui s'autofinance.
Qui, ouais, c'est impressionnant.
C'est assez extraordinaire,
ouais.
Que ça peut. Alors que la plupart des projets aujourd'hui, c'est 3 ans, 5 ans.
Oui.
Tandis que là, ils ont réussi à mettre en place une structure qui, justement, continue à travers la décennie. Quoi.
Ce qui est très bien, je trouve,
ouais,
parce que ça. On est un peu dans une société où tout va trop vite.
Ouais, ouais.
Et là, eh ben, c'est un travail de. On continue.
Je sais pas si tu as visité à Barcelone récemment.
Oui, la dernière fois que j'y suis allée, ça remonte à bien une bonne dizaine d'années.
Ok. Ouais. Ils avaient déjà la toiture, enfin les.
Oui.
Ouais, ok.
Oui.
Parce que l'intérieur est extraordinaire.
Oh. C'est unique.
Ouais, c'est vraiment unique.
La Sagrada Familia, oui, c'est une église unique en son, un bâtiment unique en son genre. Ouais.
Bon, allez, on va pas en parler de la Notre-Dame, on dérive un petit peu. Donc, une petite pensée émue pour Notre-Dame en cette veille de Pâques. Et on va se mettre une petite musique, toujours sous le contrôle de Sarah.
Alors, qu'est-ce qu'on va bien
qu'est-ce
pouvoir
qu'on va
mettre,
bien pouvoir mettre
Voyons un peu.
Le suspense.
Oh.
Attends, il faut que je monte le curseur. Là. J'ai déjà oublié lequel je dois monter. Ça doit être, RCA2, c'est ça.
C'est ça, RCA2. Mistral gagnant, Renault.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. On entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boères. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants.
Pour parler d'autre chose, moi je voulais parler d'une petite révolution, entre guillemets, qui va sans doute passer inaperçue pour la plupart des gens. Donc d'ici environ un mois, là, le 20 mai 2019, le système international d'unité va être redéfini.
Alors ça, c'est quelque chose que tu m'as appris, je l'ignorais complètement. Alors en quoi ça consiste exactement?
Alors en quoi ça consiste exactement? Eh bien donc c'est... en fait, quand le système... Je vais parler de l'historique du système d'unité peut-être un peu plus tard, mais quand le système international d'unité a été introduit au XVIIIe siècle, 18-19e siècle, le but c'était d'avoir des unités qui étaient définies par la nature. Donc on voulait éviter d'avoir une unité qui était la taille du pied du roi... la longueur du pouce de la reine ou des choses comme ça.
Mais ça veut dire qu'avant ça changeait quand la reine mourait et que c'était quelqu'un d'autre qui venait sur le trône, l'unité changeait.
Oui, il y a des époques et des pays où les unités changeaient au cours du temps, effectivement.
Oh oui.
J'ai pas les exemples sous la main là, mais il y a des exemples comme ça. Et aussi avant qu'on ait les communications soient bien développées, il y a beaucoup de villes où ils utilisaient les unités du même nom mais qui valaient pas nécessairement dire la même chose.
Tu veux dire qu'un pouce à Amiens, c'était pas la même chose qu'un pouce à Londres, par exemple?
Le pouce est une unité anglaise, donc il faut voir comment elle s'est répandue. Mais par exemple, dans les unités médiévales, on parle beaucoup de la lieue. Il y avait 6 lieues pour aller au marché, je sais pas. Il y a beaucoup d'anciens romans, d'anciens livres, d'anciens écrits où on parle du lieu. Et c'est pas toujours facile de déterminer quelle est exactement cette distance, parce que c'est très régional, quoi. Une lieue dans le nord de la France, c'était pas une lieue dans le sud de l'Allemagne, quoi.
D'accord.
Même si le mot était le même et qu'il y avait une certaine cohésion. Il y a beaucoup d'anciens livres où on parle de distance notamment, parce que c'est l'unité qui vient peut-être le premier à l'esprit. Et c'est pas toujours facile de savoir de quelle distance il parle, quoi. Parce que justement, la définition varie avec le temps, varie avec le lieu, etc.
Pratique.
Donc c'est pas très pratique. L'unité de temps aussi, pendant longtemps, les heures étaient définies entre le lever et le coucher du soleil. Il y avait 12 heures, ou je ne sais plus exactement le nom, mais je crois qu'il y avait 12 heures entre le lever et le coucher du soleil. Et donc en hiver, où il y avait la période de clarté est plus courte, mais les heures étaient effectivement plus courtes. Une heure était plus courte qu'une heure en été. Quoi.
Oh là là!
Alors ça n'avait pas nécessairement tellement d'importance, parce que beaucoup de gens n'avaient pas de montres. Les horloges, les montres se sont répandues beaucoup plus tard, mais... là où ça a commencé à prendre de l'importance, c'est quand les gens ont commencé à commercer. Et donc, simplement pour échanger des marchandises, quand on veut échanger un kilo ou une pinte ou un palan ou une stère de bois, on a envie que ce soit clair, quoi. Quand j'achète une stère de bois, je veux être sûr de savoir ce que c'est, que ce soit pas une demi-stère anglaise et que je me fasse rouler avec le prix, quoi.
D'accord.
Donc, le commerce a poussé à l'introduction des unités. Et donc, c'est pour ça que les unités, la standardisation des unités a été poussée historiquement. Mais donc, historiquement, les unités étaient quand même définies. On a parlé du pied et du pouce, c'était défini sur, je ne sais pas exactement. Là, j'ai regardé les définitions modernes et j'ai un peu oublié de faire mon homework, ça veut dire les unités anciennes. Mais je sais qu'à un moment donné, le pied était défini sur la taille du pied d'un roi. Et donc, effectivement, c'était pas... un problème avec ça, c'est que, comment dire à... Si tu veux commercer avec une nouvelle personne, et dire, ah, moi, je mesure les longueurs de mes troncs en pied, comment lui expliquer ce que c'est un pied, toi? Alors, tu peux lui donner un morceau de bois en disant, ça, c'est un pied, voilà, maintenant, on va faire comme ça, mais il faut s'imaginer que tout le monde doit être d'accord, quoi.
Ouais, évidemment.
Donc, c'est pas nécessairement évident.
Ouais, donc et c'est quand qu'ils ont décidé de mettre en place un système métrique international?
Donc, les premières étapes, c'est 1790. Le système, la notion de système métrique est introduite. Enfin, il y a ce projet de mettre en place le système métrique, plus exactement.
En France?
En France.
Donc
ouais.
C'était juste à la Révolution française, en fait. 1790.
Avant de parler de ça, j'ai juste une petite anecdote là qui m'est passée par la tête juste avant, et puis j'ai oublié, mais non, je m'en rappelle de nouveau, donc je vais en parler tout de suite. Il y a une espèce de légende qui court que les dimensions de la navette, de certains éléments de la navette spatiale sont liées à la taille du cul d'un cheval dans des temps ancestraux, quoi.
Pardon?
C'est assez curieux, mais donc là, l'histoire, c'est à peu près comme ça. Je sais pas si c'est un mythe, si c'est vrai, mais je crois qu'il y a une part de vérité. Donc, quand on a voulu construire la navette spatiale, bon, il fallait construire différents éléments et les amener, d'une certaine manière à la base où tout était assemblé, à Cap Canaveral. Et donc, certaines pièces arrivaient par train. Alors là, la taille de certaines pièces était limitée par l'écartement des rails du train qui détermine en partie la largeur des wagons qu'on peut faire passer sur ces voies, le diamètre des tournants, etc. Et il faut savoir que l'écartement des rails, qu'on appelle la gauge des rails en anglais, la gauge, je crois, en fait, anciennement a été déterminé parce que les premiers trains étaient tirés par des chevaux. Et donc l'écartement des rails a été déterminé par la largeur du cul d'un cheval pour qu'il puisse pas marcher entre les rails. Et donc d'une certaine manière, même si le lien est un peu ténu, certains éléments de la navette spatiale ont une dimension qui était limitée par la taille du cul d'un cheval. Donc c'est pour dire que quand même les unités c'est important parce que ça se propage et il y a certains choix qui sont faits historiquement et qui ont des influences qui n'ont plus rien à voir après.
Mais où ça va se mettre, ouais. Franchement.
Et donc avant de parler de l'historique, je voudrais aussi en parler de l'importance du système d'unités. Bon, on a parlé des échanges commerciaux qui est la première idée auquel on vient. Mais par exemple, un autre exemple qui est donné que j'ai trouvé sur un site web, je vais donner l'adresse du site web après, c'est la construction. Si on pense à la construction d'un téléphone cellulaire. Pour construire un téléphone cellulaire qu'on a tous dans notre poche, il y a quand même toute une technologie derrière, il y a toute une infrastructure pour construire les circuits électroniques, pour construire les pixels de l'écran. Différentes usines fabriquent différents éléments, il faut que la taille des connecteurs, les voltages utilisés pour l'alimentation, tout ça colle. Et donc tous ces gens doivent se mettre d'accord pour dire que le connecteur doit avoir telle taille, les pixels doivent avoir telle taille. Pour fabriquer ces écrans, il faut utiliser les produits chimiques avec un certain dosage. Il y a des distributeurs de produits qui les fabriquent, qui vendent telle concentration. Enfin, il faut que tout le monde se mette d'accord. Il y a quand même une énorme infrastructure qui dépend sur plein de mesures, plus ou moins précises à différentes échelles, tout doit être cohérent pour qu'à la fin le téléphone fonctionne.
D'accord.
Si le dosage des produits qu'on met dans la construction du microprocesseur n'est pas bon, peut-être le microprocesseur ne va pas marcher.
Il ne marche pas de la même façon. Ouais.
Un autre exemple, c'est l'industrie pharmaceutique, où il faut que une entreprise qui a trouvé le bon dosage du médicament dit il faut autant de milligrammes de tel produit par telle concentration.
Il faut que les autres labos puissent le reproduire, bien sûr.
Et donc, à toutes les échelles, que ce soit pour la construction d'un navette spatiale, on parle de l'échelle du mètre, à des produits pharmaceutiques, où on parle parfois des masses en microgrammes, il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc, beaucoup de choses aujourd'hui dépendent de toute une infrastructure qui dépendent de mesures précises où tout doit être bien calibré et bien cohérent. Quoi.
Alors là, tu disais que avant, il décidait de la taille du pied, par exemple, sur la taille du pied du roi.
Ouais.
Voilà. Mais comment est-ce qu'ils ont décidé que un kilo, ça allait faire un kilo ?
Donc voilà. Donc là, on va parler. On en parle tout de suite là. Ou ça fait combien de temps qu'on parle de ça là ? Ou on se met une petite musique ?
On se met une petite musique
et puis on revient. Musique et puis on revient aux unités. Ouais.
Alors, voyez un peu. Alors. Oh. Ça, c'est un de mes morceaux préférés.
Ok, on va le mettre tout de suite.
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu.
Et comment il s'appelle ?
C'est un morceau de 1993, par l'affaire Louis Trio, et ça s'appelle « Mobilis in mobile ».
J'irai voir en tôt ou tard si les sirènes existent. Sur le dos des baleines, je suivrai leur piste. Car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. J'irai voir en tôt ou tard si les sirènes insistent. Suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour.
Walter Luis Trio, Mobilis in Mobile.
Voilà, et Sarah me faisait remarquer que c'était un morceau de 1993, et qu'en 1993, qu'est-ce qui t'est arrivé?
C'est l'année où j'ai visité la cathédrale Notre-Dame pour la première fois.
Donc apparemment, Sarah a été inspirée par ses souvenirs.
Ouais.
Pour la musique. Et
j'ai quelques. Ouais. Sans. En fait, je viens juste de réaliser que sur ma playlist de ce soir, il y a plusieurs morceaux de 1993.
Ouais. Bah voilà. Bon. Ok. Donc pour en revenir à nos unités là et pour parler un peu de l'historique du système actuel qu'on appelle le système international. SI, c'est l'abréviation officielle. SI, toutes les langues. Donc en anglais, c'est International System. C'est l'abréviation pour toutes les langues. C'est quand même SI, système international. Et donc ça a commencé en 1790 avec l'introduction, ou en tout cas la volonté d'introduire ce qui allait s'appeler plus tard le système métrique. Et donc ce système a été défini dans le but de définir des unités qui seraient valides pour tout le monde, qui seraient valables pour tout le monde et de tout temps. C'était l'objectif.
Tu veux dire dans tous les pays?
Oui, l'idée c'était de faire un système international.
Mais, voilà, ouais.
Et qui serait valable pour l'éternité. Il n'y aurait plus besoin de définir un autre système plus tard parce que les unités seraient. Et le but à l'époque, déjà, il le disait, l'idée c'était de baser la définition des unités sur la nature. On voulait définir les unités sur des propriétés intangibles de la nature. Le fait que n'importe qui, si par exemple on définissait que le mètre était cette propriété intangible de la nature, n'importe qui, avec l'équipement suffisant, pouvait reconstituer le mètre sans dépendre de la taille du pied du roi ou quelque
D'accord.
chose comme ça.
Mais arrête-moi si je me trompe, mais je crois qu'aux États-Unis, ils n'ont toujours pas adopté le système métrique international.
Ils travaillent avec des unités, donc qui sont le yard et le miles, etc. Mais ces unités sont aujourd'hui définies par rapport au système métrique. Donc en fait, les définitions historiques du mile, par exemple, n'est plus celle qui est utilisée aujourd'hui comme la définition du mile, mais le mile est défini en un certain nombre de mètres.
D'accord.
Donc en ce sens, ils sont quand même calés sur le système
métrique. Oui, ok.
Même si dans la vie de tous les jours, les gens effectivement utilisent. Et d'ailleurs aux États-Unis, par exemple, pour tout ce qui est la vie de tous les jours, c'est le système des miles, des Fahrenheit, des pounds et des onces. Mm-hmm. Mais par exemple, tout ce qui est science utilise le système métrique.
Ah d'accord, donc en fait dans la vie de tous les jours, ils utilisent encore leur système impérial, je crois ça s'appelle.
Voilà, oui.
Mais les scientifiques,
aussi, ouais.
Les scientifiques utilisent le système métrique international dans leurs expériences et en université et en labo.
Je pense, ouais.
D'accord.
Mais par exemple des revues comme National Geographic, pour tout, qui sont américaines, qui étaient américaines, pour quand ils parlent d'articles généraux, de culture, d'histoire, ils utilisent le système impérial. Et quand ils parlent quand ils font un article de science, ils utilisent le système métrique.
D'accord.
Pour parler du système impérial, je m'égare toutes les deux minutes avec mon histoire, mais c'est pas grave. Il y a un gros foirage qui date d'il y a quelques années là, à propos des unités. Ils ont lancé une sonde sur Mars qui s'appelait Mars Explore. Enfin, c'était une sonde martienne donc, qui a coûté à peu près $1 milliard. Le but, c'est qu'elle allait aller sur Mars, mettre en orbite, envoyer un atterrisseur, faire des études, etc. C'était dans les années 90, je crois. Et en fait, il y a eu une erreur qui a été produite, en ce sens que l'électronique, l'ordinateur de bord fonctionnait avec les unités métriques, mais à un moment donné, quelqu'un a programmé la phase de mise en orbite basée sur des unités impériales,
oh non.
Ou l'inverse. Enfin. Et donc, ils ont envoyé un message à la sonde qu'elle devait, après un certain nombre de kilomètres, qui étaient en fait des miles, qu'elle devait mettre en marche en moteur, etc. Et le résultat, c'est que la sonde s'est plantée tout droit sur la surface et a explosé avant de pouvoir se mettre en orbite. Quoi. Donc c'est une erreur d'unité qui a coûté $1 milliard. Quoi.
Moralité, tout le monde devrait adopter le système métrique international.
Donc c'est encore un bel exemple comment c'est important de se comprendre, surtout quand on a des projets qui font intervenir beaucoup de gens. Quoi. Donc revenons à 1790. Donc ils voulaient introduire un système d'unités qui serait défini sur la nature et qui serait grâce à ça valable de toute éternité et pour tout le monde. Et donc ils ont décidé en particulier, on a parlé du kilo tout à l'heure, ils ont défini en particulier de définir le kilo comme étant la masse d'un litre d'eau. Alors bon, aujourd'hui on a un peu plus précis que ça, c'est un litre d'eau pure, etc. Avec, il y a une certaine contrainte sur les isotopes de l'eau, mais bon, on n'entrons pas dans le détail. Donc le kilo c'était un litre d'eau à une certaine température, et le mètre a été défini comme étant un millionième de la distance de l'équateur au pôle Nord. C'est pour ça qu'aujourd'hui le diamètre de la Terre c'est à peu près 40 000 km, hein, puisque la distance de l'équateur au pôle Nord c'est un quart... un quart de la circonférence de la Terre, ça fait donc 10 000 kilomètres, ou 1 million de mètres.
Je suis sans voix.
Donc le mètre est défini comme 1 million de la distance de l'équateur au pôle Nord. Alors évidemment, ce n'est pas une définition très pratique. Si on dit à quelqu'un, amène-moi un arbre de 10 mètres, je te l'achète, et le mètre est défini comme étant une telle fraction de la distance de l'équateur au pôle Nord, tout le monde ne va pas aller de l'équateur au pôle Nord avec son mètre ruban pour mesurer, quoi. Donc c'était pas très pratique. Donc ils ont décidé de créer des réalisations physiques de ces unités, et donc de créer des objets qui allaient représenter exactement cette définition. Et donc pour le mètre, pour avoir bien calculé combien c'était la fraction entre l'équateur et le pôle Nord, on a construit une barre dans un certain métal, c'est un alliage de platine et d'iridium qui n'est pas censé réagir avec l'atmosphère, qui ne s'oxyde pas, qui ne s'use pas, qui n'a pratiquement aucune dilatation thermique, etc. Donc c'est pour ça que cet alliage a été choisi. Et donc on a construit cette barre de platine iridium qui valait 1 mètre. Et donc l'idée c'était que la définition du mètre c'était donc la taille de cette barre. Alors c'est un peu moins fluctuant que la taille du pied du roi, oui. Mais ce n'est pas encore le but. Tu vois, si l'idée c'était de définir des unités qui seraient intangibles et valables de tout temps et pour tout le monde, ben, tout le monde n'a pas accès à cette barre qui est en fait tellement précieuse parce qu'on n'a pas envie qu'elle change, elles ont été mises dans un coffre-fort à Paris au Bureau international des poids et des mesures qui garde par exemple cette barre d'un mètre. Alors ils ont fait des copies qui ont été données à différents pays. Et régulièrement, bon, le mètre maintenant a changé, mais pour parler du mètre, régulièrement, les pays amenaient chacun leur mètre et on comparait pour être sûr que ça ne bougeait pas et que le mètre était toujours un mètre.
Oui, un étalonnage en fait. Ouais.
Et pour les kilos, ça a été la même chose. On a construit une masse de platine et d'iridium qui valait exactement un kilo qu'on a comparé, donc au poids d'un litre d'eau, enfin la masse d'un litre d'eau. Et donc ce kilo qu'on est également stocké dans ce coffre-fort à Paris. Quoi.
Mais on peut les voir, ces objets, ou ils sont...
Alors, en fait, ils sont aujourd'hui tellement... Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Bon, quand on achète un kilo de carottes au magasin, si la masse de cette masse de platine iridium variait de quelques microgrammes, bon, c'est pas trop grave pour acheter un kilo de carottes. Mais on a parlé de l'industrie pharmaceutique, de toute une calibrage de série d'instruments qui sont beaucoup plus précis que le kilo de carottes qu'on achète. Et donc, c'est très important à l'heure actuelle pour que tout le monde reste d'accord, pour pas que le système dérive, que cette masse ne change pas. Et donc, il faut surtout pas l'abîmer, quoi. Et donc, notamment le kilo, en fait, aujourd'hui, c'est la dernière unité qui reste liée à un artefact physique. Je vais parler de comment le mètre a changé au cours du temps. Cette masse est tellement précieuse qu'en fait, on ne la sort de ce coffre-fort que tous les 40 ans. Donc, il y a différentes copies qui sont... Différents pays ont différentes copies. Chaque pays a des copies secondaires, etc. Mais le kilo de référence, c'est cette masse qui est à Paris dans le coffre-fort du Bureau international du poids et mesures. Et ce kilo-là n'est sorti qu'une fois tous les 40 ans pour le comparer avec les autres masses de référence pour être sûr que tout reste bien calibré.
C'est quand même très étonnant qu'on ait le droit de visiter et de voir les joyaux de la couronne en Angleterre. Et le kilo de référence... On ne le voit pas.
On ne peut pas le toucher.
Non.
Donc, j'ai vu une photo. Donc, il est dans ce coffre-fort. Il est sur un beau plateau. Par-dessus, il y a une cloche de verre. Et en fait, il y a trois cloches de verre imbriquées. L'atmosphère de ce coffre-fort est contrôlée. La température, l'humidité, etc.
C'est incroyable.
Parce qu'on veut éviter qu'il y ait des réactions chimiques peut-être qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qui vont affecter la surface et changer sa masse, par exemple.
Mais en quoi ça serait une catastrophe que ça change? Parce qu'après tout, il y a tellement de kilos maintenant partout dans le monde qu'on on retrouverait forcément.
Hein. Le problème, c'est que si celui-là était abîmé et qu'on... Si maintenant il brûlait et qu'on le perdait, il faudrait bien trouver une solution. Mais si... en fait, par définition, un kilo, c'est la masse de cet artefact qui est dans ce coffre-fort. Et donc, si cet artefact était abîmé, ben, on le cogne et il perd 10 microgrammes, ben, ça veut dire que le kilo de carottes du magasin va plus être le même. une manière de voir ça, c'est que si, par exemple, ce kilo change, la masse de cet artefact change, eh ben, on va tous prendre du poids ou maigrir.
Ah.
Parce que la définition du kilo va changer. Parce que la définition du kilo, c'est la masse de cet élément, de cet artefact.
Mais alors pourquoi, si c'est tellement important, fondamental, que ce kilo reste tel qu'il est, inchangé, pourquoi est-ce qu'on a besoin de revoir le système international dans les jours qui viennent?
Donc le but de revoir le système international dans les jours qui viennent, c'est justement de se débarrasser de cet artefact. Et en fait, à la base, j'ai parlé donc en 1790, on a défini le kilo comme la masse d'un litre d'eau et on a construit cette masse. Enfin, cette masse a été en fait construite en 1889, voilà, une date de 1889, quelques bons siècles après, en fait.
Oui.
Ça a mis du temps à se,
99 ans plus
à
tard.
Se répondre. Donc en fait, j'ai peut-être allé, on va finir l'histoire. Hein. Donc en 1790, on décide de mettre en place ce système. On a défini par exemple les kilos et le mètre. En 1875, il y a 17 nations qui ont signé ce qu'on a appelé le traité du mètre. Et donc c'est en 1875 que finalement, c'est devenu un système global accepté au niveau international. Avant, c'était une proposition, quoi. Et donc en 1875, cette proposition a été acceptée internationalement. Et donc c'était le premier système commun de mesure pour les échanges internationaux, etc., qui était accepté par tout le monde, qui était disponible sur une échelle, définie sur une échelle globale. Enfin, globale, à l'échelle de la Terre. Donc 1889, on a construit le prototype de ce kilo. Et puis au cours du temps, je vais en parler peut-être dans les minutes qui viennent, il y a d'autres, progressivement on s'est débarrassé de ces artefacts. Par exemple, on s'est débarrassé de la barre du platinium d'un mètre. Au cours du temps, on est parvenu à redéfinir le mètre indépendamment pour se débarrasser de cet artefact qui se définit autrement, lié réellement à une propriété intangible de la nature comme c'était le but initialement. Et le kilo est le dernier artefact qui reste. C'est la dernière unité qui est encore liée à un artefact physique et pas à une propriété intangible de la nature.
D'accord.
Et donc la petite révolution qui va se passer donc dans un mois, le 20 mai exactement, c'est qu'on va finalement se débarrasser du dernier artefact, que le système international d'unité va être complètement lié à des propriétés intangibles de la nature.
Ben peut-être que maintenant, ils pourront faire un musée des artefacts.
Tout à fait. Ils vont, le ils kilo, vont qu'on a, en fait, il a un nom, il s'appelle le Grand K.
Le Grand K.
Le Grand K, c'est le kilo de Paris, le kilo de référence. Donc, ce kilo va pouvoir aller dans un musée, comme le sont déjà les barres du maître qui ont déjà été mis à la retraite. Quoi.
À Paris?
Je ne sais pas où va être ce musée. Bon, le Grand K, il n'y en a qu'un, c'est celui de Paris, mais il y a des copies, donc j'imagine que différents musées auront différentes copies, etc.
Quoi. Ça va être intéressant à visiter, ça.
Pour en parler encore du kilo, là, donc, tous les 40 ans, on le sort de son coffre-fort et on compare avec les autres masses de référence. Et on a constaté, et on n'est pas sûr de savoir pourquoi, que la masse variait à l'échelle d'environ 10 microgrammes. Quoi. Alors l'échelle de 10 microgrammes, c'est pas très grave. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas définir la masse aujourd'hui. Aucune masse aujourd'hui ne peut être définie plus précise que... donc, puisque le kilo est précis à 10 microgrammes près, aucune mesure de masse aujourd'hui ne peut être plus précise que une part par ou 10 parts par million. 10 parts par milliard, pardon. C'est 10 microgrammes par rapport à un kilo.
Ce qui est quand même problématique dans l'industrie pharmaceutique. Parce
par exemple, on arrive à...
Il y a des molécules.
Il y a des tests de théorie fondamentale sur le Big Bang, la matière noire, etc., qui poussent la précision plus loin que ça. Donc pour ces gens-là, c'est important d'avoir une définition plus précise, notamment du kilo. Quand même. Alors, avant de parler du kilo, je vais terminer avec comment on s'est débarrassé des autres artefacts. Alors, donc, en 1967, on a redéfini l'étalon de temps. Avant, le temps, historiquement, le temps était lié au cycle solaire, les 24 heures du soleil, etc. En 1967, on s'est débarrassé de ça en définissant la seconde par rapport à une propriété intangible de la nature. Et donc, ça s'est défini par rapport au fait que un certain atome, qui est l'atome de césium, il y a, quand on le met dans des conditions particulières, il émet des radiations radio. Et la fréquence de ces radiations est très 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 précise. C'est 9 milliards d'oscillations par seconde avec beaucoup de décimales. Et donc on a défini la seconde comme étant la fraction 1 sur 9 milliards de la radiation du césium.
Donc ça veut dire que l'atome de césium n'est pas influencé par les conditions de température et de pression?
En fait, on a fait des techs. Au moment où on a défini la seconde par rapport à l'atome de césium, il y a différents atomes qui ont été considérés. Et l'atome de césium est celui qui est le plus insensible, qui est le plus stable. Différents laboratoires ont mesuré la fréquence d'émission de l'atome de césium. Et tout le monde arrive à la même valeur. Et on est capable, en précisant... Bon, il faut préciser certaines... Il faut qu'il soit une certaine pression, une certaine température. Mais avec les... Bon, cette pression et cette température sont elles-mêmes basées sur d'autres unités, bien sûr. Mais avec la précision des unités telles que définies à l'époque, personne ne pouvait distinguer deux horloges de césium différemment. Donc la précision était... En fait, on arrivait à la conclusion qu'une horloge de césium était plus précise que toute autre définition qu'on pouvait trouver de la seconde basée sur l'écoulement du soleil, etc.
D'accord.
Et donc en 1967, la définition du temps est liée à cet atome de césium et à l'introduction de ce qu'on appelait l'horloge atomique. Et il se fait aussi, donc la seconde a un rôle particulier dans le système d'unités, parce que par rapport à toutes les autres définitions des autres unités fondamentales, il y a 7 unités fondamentales, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps d'en parler aujourd'hui, la seconde est celle qui est définie le plus précisément. Donc le temps est la quantité qui se mesure le plus précisément à l'échelle de, on parle de 10 exposants moins 15, donc c'est un millionième de milliardième. Donc on a parlé du kilo qui est défini à 10 parts par milliard. Le temps est défini à une part par million de milliards.
Waouh.
Et donc c'est à ce point. Donc l'atome de césium, l'horloge atomique est stable à ce point, à cette précision-là.
Et ça veut dire que les horloges, par exemple, le temps universel, l'horloge.
Ouais, est définie alors par rapport à l'horloge atomique au césium.
Donc elle est mise, elle a déjà été mise à jour et réglée.
Donc chaque pays a, je ne sais pas si c'est tous les pays, mais il y a un certain nombre de pays qui ont une horloge de référence, qui est une horloge atomique au césium. Et régulièrement, les différentes horloges entre différentes horloges maîtres de chaque pays sont comparées pour être sûr qu'elles restent en synchronisme. Parce qu'il y a des très légers effets relativistes qui progressivement les calment. Mais ces horloges sont, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est des horloges qui se décalent. Par exemple, une montre à quartz se décale d'une seconde par, je sais pas, par mois, par exemple. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais l'horloge à césium est précise à l'échelle d'une seconde par rapport à l'âge de l'univers, hein, quelque chose comme ça. C'est ça qu'on parle, quoi. Donc elle est plus précise.
Même.
Mais par contre, ce qui se passe, c'est que, comme la rotation de la Terre est liée à certaines fluctuations liées au soleil, etc., au vent solaire, en fait, si on calait la définition du jour exactement sur l'horloge à césium, au cours du temps, le jour va se décaler, les saisons vont se décaler. Donc pour éviter que l'expérience humaine se décale et qu'on se retrouve dans je ne sais pas combien de milliers d'années à voir le soleil qui se lève à midi, par exemple, en fait, on décale l'horloge à césium pour la caler sur l'orbite terrestre. Et c'est pour ça qu'on régulièrement recalibre les différentes horloges à césium de référence de différents pays. Mais donc l'étalon de temps est parfaitement défini précisément, aussi précisément qu'on le peut. Alors bon, ça c'est l'horloge, c'est l'étalon de temps. Alors en 1983, donc l'horloge atomique c'était 1967. En 1983, on s'est débarrassé de la barre d'un mètre qui définissait le mètre. Alors comment on a fait ? Eh bien en 1983, on est parvenu à mesurer la vitesse de la lumière. De manière tellement précise que on s'est rendu compte que la limite, ce qui limitait la précision de la mesure, c'était la précision avec laquelle on pouvait mesurer la barre qui définissait le mètre qui était à Paris. Et donc on a décidé à ce moment-là, en fait, il y a la théorie de la relativité prévoit que la vitesse de la lumière est une constante universelle. N'importe qui dans l'univers, n'importe qui sur Terre, sur n'importe quelle autre planète qui mesure la vitesse de la lumière doit arriver à la même valeur. Et il y a des théories, la théorie de la relativité notamment, qui ont été vérifiées. On a vérifié ce qui au début était un postulat de manière très 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 précise. Il apparaît que quelle que soit la manière dont on mesure la vitesse de la lumière, n'importe où qu'on la mesure, à n'importe quelle vitesse, de n'importe quelle manière, on tombe toujours sur la même valeur. Et donc il semblerait que la vitesse de la lumière est une constante fondamentale de la nature. Et donc la vitesse de la lumière, bon, c'est un certain nombre de mètres par seconde, c'est à peu près 300 000 km par seconde. Mm-hmm. Et donc on a décidé, en fait, en 1983, on a décidé de fixer la valeur de la vitesse de la lumière à une valeur très précise qui contient 12 ou 15 chiffres, et de dire que, bon, gardons 300 000 km par seconde pour simplifier, et de dire que le mètre allait être défini comme étant 1 300 000... Donc en fait, on a défini un kilomètre comme étant 1/300 millième de la distance parcourue par la lumière en une seconde. Et comme la seconde est définie très précisément à 10 par moins 15 près par, avec l'horloge atomique, automatiquement, ça transfère cette précision à la mesure de distance. Donc si on peut mesurer le temps à 10 par moins 15 près, en fixant la vitesse de la lumière à une valeur précise, qui est fixée maintenant pour toujours, sans erreur, donc c'est une valeur et, qui termine, il n'y a pas de etc. dans les décimales, quoi. On peut mesurer les distances à 10 par moins 15 près, comme on peut mesurer le temps, quoi. Donc en 1983, on s'est débarrassé de l'artefact qui définissait le mètre, grâce à cette observation qu'on pouvait mesurer la vitesse de la lumière plus précisément que de manière autrement. Quoi.
C'est passionnant.
Et donc progressivement, on s'est débarrassé de tous les autres artefacts. Et aujourd'hui, en 2018... On va se débarrasser du kilo, qui est la dernière unité définie par rapport à un artefact physique. Mais là, après tout ce que j'ai parlé, là, il va falloir digérer tout ça avec un peu de musique, je
pense. Oui, je pense, oui. Ouais. En tout cas, merci Stéphane. Là, on en a appris des choses.
Donc la musique, c'est le poids du kilo.
Le poids du kilo. Bon, je ne sais pas si c'est le poids du kilo, mais on va partir avec Chimène Badi. Je viens du Sud. Si j'y arrive.
Si on y arrive.
Si on y arrive.
Si la technique nous suit.
Et voilà.
Elle arrive ?
Elle arrive.
Ça, je l'entends. Chimène Badi.
Je reviens.
dit « Je viens du Sud ». Je crois que c'était une chanson de Michel Sardou au départ.
Oui, je pense que Michel, je ne sais pas qui a commencé à la chanter, qui est le premier, mais...
Mais cette version de Chimène Badi est particulièrement belle, je trouve.
Mais t'aimes bien les chansons du Sud, toi, parce que la semaine passée, tu as passé Nino Ferrer, le Sud.
Oui, c'est vrai.
Qui apparemment réfère à la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas s'il y a un lien avec ce film.
Oui, je ne sais pas. Probablement, okay. Ouais. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, peut-être.
Ok. Bon, revenons à notre kilo. Donc, le 20 mai 2019, d'ici un mois, le kilo, l'artefact du kilogramme, le grand K, comment il s'appelle, qui est à Paris. On n'aura plus besoin de lui pour définir le kilo. Alors, donc pour en revenir au kilo, le coulet donc, est toujours défini par rapport à cette masse d'un kilogramme. Et donc, depuis quelques années, depuis 2011, on a décidé qu'on allait se débarrasser de ce kilo. Et donc, le challenge qui a été posé, c'est d'arriver à définir la masse liée à des propriétés intangibles de la nature et de façon à fixer le poids de ce kilo. Alors il y a deux propositions qui ont été mises en place. Donc l'une, c'est une balance électromagnétique qui permet en fait de lier de mesurer la masse en utilisant de manière ultime une horloge atomique. Donc de nouveau l'idée, de la même manière que le mètre, la définition du mètre a été liée à la précision de la seconde via la vitesse de la lumière, on a essayé de faire la même chose pour le kilo. Alors comment est-ce qu'on peut lier le kilo à la seconde? Alors c'est via deux équations fondamentales, il y en a une que tout le monde connaît. Quelle est la seule équation que tu connais?
La seule équation que je connais?
Je ne sais pas, tu connais une équation de la physique?
Oui, je connais P égale MG.
Donc, équation que tout le monde connaît.
E égale MC2.
Voilà, E égale MC2. Donc E égale MC2, c'est une équation, donc E c'est l'énergie, MC c'est la masse, C c'est la vitesse de la lumière. On a parlé que la vitesse de la lumière était maintenant fixée. Donc cette équation lie l'énergie et la masse. Et donc cette équation dit qu'en fait, la masse est équivalent à une certaine quantité d'énergie. Si on désintègre une masse, ça libère une certaine quantité d'énergie. Alors, donc ça lie la masse à l'énergie. Et on peut en fait lier l'énergie au temps via une autre équation que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui dit que l'énergie d'un photon, des particules de lumière, c'est égal à une certaine constante, qui est la constante de Planck, qui s'appelle H, du nom du physicien Max Planck. Donc E égale H fois F, la fréquence de la lumière. Et la fréquence, c'est l'inverse d'un temps. Et donc via ces deux équations, on peut relier la masse à une mesure de fréquence. Et donc la balance électromagnétique a été développée par le NIST aux États-Unis, le National Institute of Standards and Technology, parvient à mesurer une masse en liant la précision de sa balance à l'horloge atomique. Et ils sont parvenus à faire ça plus précisément que les 10 microgrammes par lesquels sont définis le kilo, quoi. Et dans le même, alors ça a pris un certain nombre d'années pour développer une balance qui marchait bien et qui respectait tous ces beaux principes. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a une deuxième proposition qui a été suivie et qui est l'idée que on allait définir la masse en comptant les atomes dans une sphère de silice qui allait être très pure et parfaitement polie pour que ce soit une sphère parfaite. Et si on pouvait savoir exactement combien d'atomes de silice il y avait dans cette sphère, on pouvait comme ça lier la masse à un nombre d'atomes qui est alors lié à un autre, une constante fondamentale qui est le nombre d'Avogadro, qui est le nombre d'atomes qu'il y a dans une boule de matière. Et donc les deux propositions ont été suivies en parallèle et à la fin, on a, je crois à partir de 2017-2018, on a constaté que les deux arrivaient à une précision similaire. Et donc ces deux techniques de mesure, donc parlons de la première pour simplifier, mais donc si on parvient à caler la mesure de la masse via la constante de Planck et la vitesse de la lumière à l'horloge atomique, quelque part, plutôt que de mesurer la constante de Planck via cette équation par rapport au grand K qui est à Paris, on peut fixer la constante de Planck et à l'envers, ça va définir le kilo. Et donc c'est comme ça que le 20 mai 2019, on va redéfinir le kilo, de la même manière qu'on a fixé la vitesse de la lumière en 1983 pour définir le mètre, on va maintenant fixer la constante de Planck pour définir le kilo.
Mais ça veut dire qu'il y a des gens en laboratoire qui ont dû travailler pendant des années.
Tout à fait. Pour c'est définir des efforts qui. Parce qu'en fait, on ne veut pas redéfinir ces unités si on n'est pas tout à fait sûr que la définition est parfaitement reproduisible et parfaitement stable. On a parlé du fait que l'atome du césium, on l'avait choisi parce qu'il y avait plein d'expériences qui ont été établies pour montrer que vraiment, différents laboratoires, une fois qu'on a donné la recette de l'horloge atomique au césium, deux laboratoires qui construisent indépendamment deux horloges au césium, arriveront à la même définition de la seconde. Et on veut la même chose pour le kilo. Deux laboratoires qui construisent cette balance électromagnétique, qui s'appelle la balance de Keeble, avec la constante de Planck qui est maintenant fixée, doivent arriver à la même définition du kilo, à environ 10 microgrammes près. Et donc ça a mis beaucoup de temps à trouver la bonne technique, la bonne recette, parce qu'en fait, dans le système d'internationalité, il y a à chaque fois ce qu'on a appelé une mise en pratique. C'est tout défini avec des termes français, qui dit comment on doit réaliser l'appareil qui permet de calibrer la mesure. Pour chaque unité, il y a une mise en pratique.
Donc, question très importante pour terminer.
On est presque au bout.
On est presque au bout. Qu'est-ce que ça va changer pour nous dans notre quotidien ?
Je pense que dans le quotidien, ça ne va sans doute rien changer. Parce que monsieur et madame tout le monde n'ont pas besoin de mesures aussi précises. Par contre, ça va permettre, de manière ultime, ça va permettre des mesures plus précises. Et en fait, on l'a constaté, chaque fois qu'on a eu accès à des outils qui permettaient de faire des mesures plus précises, eh bien, on a découvert des nouvelles choses. Un exemple récent, l'année passée, on a annoncé la découverte des ondes gravitationnelles. On ne va pas en parler dans les 5 dernières minutes, mais c'est une mesure qui nécessite, c'est une détection qui mesure des mesures extrêmement précises, qui ont été permises notamment par le développement de l'horloge atomique, par le développement de lasers très stables, etc., etc., etc. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur de quoi sont faits les trous noirs, sur qu'est-ce que c'est cette matière noire qui existerait, dont on ne sait pas très bien. Et peut-être qu'en ayant une définition de la masse qui est plus précise, ça va permettre de développer des appareils plus sensibles. Parce qu'avant, de manière ultime, aujourd'hui, quand on mesure un temps, si on veut le faire précisément, on doit le caler sur l'horloge atomique. Si on mesure une masse, on doit le caler sur le grand K qui est à Paris, de manière ultime, via un étalonnage, etc. Et donc la précision des mesures de masse est limitée par le poids de ce grand K à Paris, la manière dont il fluctue. Mm-hmm. S'il est défini plus précis via cette constante de Planck, etc., on peut imaginer qu'on va pouvoir détecter des variations de masse plus fines dans certains événements cosmiques, dans certaines propriétés de la matière, dans certaines expériences de physique, on ne sait pas lesquelles. Hein. Mais potentiellement, ça va lier à des nouvelles découvertes. On ne sait pas encore lesquelles.
Ouais,
mais donc, chaque fois qu'on a redéfini les unités de manière plus précise, on a découvert de nouvelles choses. Donc, est-ce que ça va continuer ? On n'en est pas sûr, évidemment, mais c'est potentiellement une...
J'ai hâte de le savoir. Mais oui, enfin, moi, j'imagine déjà au niveau médical, au niveau chimique, au niveau pharmaceutique, ils vont être quand même, je pense, capables de... Eh ben, de doser de nouveau des molécules qu'ils connaissent déjà.
Ouais, détecter des changements dans certaines... Par exemple, si on essaie de voir comment un cancer se produit, etc., peut-être qu'on a besoin de détecter des changements à une échelle telle qu'aujourd'hui, avec le grand K, on ne peut pas le faire. Mais avec une balance plus précise, on pourra le faire. C'est le genre de développement que ça pourrait...
Ça peut ouvrir. Beaucoup de choses, ouais.
Alors on a parlé du kilo, mais il faut savoir que la redéfinition du 20 mai, on va redéfinir la constante de Planck, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on va redéfinir la constante de Planck pour redéfinir le kilo et se débarrasser du grand K historique de Paris. Mais en fait, il y a toute une série d'autres constantes qui vont être redéfinies dans la foulée, notamment la constante de Boltzmann pour redéfinir la température et la constante de le nombre d'Avogadro pour définir la mole. Alors c'est tout aussi fondamental, en ce sens que ça va devenir des propriétés intangibles de la nature, mais c'est moins important dans la mesure où, par exemple, la définition de la température était déjà liée à une propriété intangible de la nature, qui était le point triple de l'eau, mais qui reste très difficile à réaliser et qui a certaines imprécisions dans la réalisation de la définition de la température. Et donc, on va également redéfinir la température via une autre constante dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui. Mais donc, à partir du 20 mai, toutes les unités vont être définies via un certain nombre de constantes qui maintenant prennent des valeurs fixes pour toujours. En espérant qu'on ne soit pas trompé, bien sûr. Mais...
Oui, en espérant, oui. Eh bien, en voilà plein de choses.
Voilà, le 20 mai 2019, un jour important. Ben, on va changer la définition des unités.
Sachez-le,
tout le monde. Ouais. Votre kilo de carottes va être défini de manière autrement.
Différemment. Merci beaucoup Stéphane.
Sur cette bonne parole, on va terminer par une petite musique.
Oui.
Et on vous souhaite déjà une bonne fête de Pâques.
Bonne fête de Pâques, bonnes vacances si...
Si tout le monde, si vous prenez des vacances.
Si vous prenez des vacances, ouais.
Qu'est-ce qu'on a comme musique pour terminer?
Alors, qu'est-ce qu'on a pour musique? Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Oh, eh ben encore un morceau de 1993.
Voilà.
Le pouvoir des fleurs, Laurent Voulzy.
Voilà. Et bonsoir tout le monde.
Bonsoir à tous.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Changer les cœurs.